J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme qui rencontre un poulpe. Mais pas n'importe quel poulpe, pas celui que vous mangez ou d'ailleurs peut-être ne mangez plus en Grèce l'été pendant vos vacances. C'est un autre poulpe qu'elle a rencontré. Un poulpe qui vit dans les abysses. Pour avoir une chance sur 1000 de l'apercevoir, il faut une expédition sous-marine dans les profondeurs, à des milliers de kilomètres sous la surface. On l'appelle le poulpe à oreilles, mais ce ne sont pas des oreilles, ce sont des nageoires. On l'appelle le poulpe à oreilles ou la pieuvre Dumbo, et il est rose comme l'enfance, comme la magie, rose fuchsia, translucide, et c'est comme s'il dansait au ralenti, avec une grâce folle, avec une infinie délicatesse. Elle, elle est en arrêt devant tant de beauté. Elle ne savait pas, elle n'imaginait pas. Elle se dit qu'elle n'a jamais rien vu d'aussi délicat. Et dans cette contemplation de tant de délicatesse, dans le cœur vibrant de cette contemplation, déjà se niche une décision. Cette décision, c'est son émotion qui la lui dicte, son émotion bien plus que sa raison. Au nom de cette délicatesse, en son nom et pour la sauver, elle va lutter contre la violence. La violence de la pêche industrielle, du chalutage profond, de cette immense entreprise de destruction des fonds marins. La violence des lobbies prêts à saccager la beauté pour un peu de profit ou beaucoup, un peu plus d'influence, un peu plus de remerciements de la grande distribution. C'est décidé. Elle avait une autre idée de sa vie professionnelle et même sa vie tout court, elle ne la voyait pas comme ça. Mais c'était avant. Avant que le poulpe à oreilles, comme dans un rêve, ne se mette à danser devant ses yeux. C'est décidé. Elle va devenir militante, activiste, quitte à vivre les pires cauchemars du combat contre la mauvaise foi, l'aveuglement, les mensonges, la folie des profits qui se font sur le dos de notre santé et de celle du monde. Elle va mettre sa vie au service de l'océan qui, lui, met sa vie, on l'oublie trop souvent, au service de la nôtre. C'est pour en parler ce matin qu'elle nous a rejoint, près de deux décennies après sa rencontre avec le poulpe à oreilles. Fondatrice et directrice de l'ONG Bloom de défense des océans, lauréate en 2018 du Goldman Prize, l'équivalent du prix Nobel de l'environnement, elle a connu une autre forme de consécration quand une nouvelle espèce de corail bambou des Bahamas a été baptisée de son nom, le corail Cladaricis nouvianae. Et bien voilà, Cladaricis nouvianae, autrement dit Claire Nouvian, est avec nous ce matin sous le soleil de Platon pour nous aider à répondre à cette question. Et si c'était l'océan qui pouvait sauver la Terre ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Je me souviens du jour où tout a commencé. J'avais découvert cette zone très particulière, protégée par une grande forêt de kelp qui atténue la houle. Je me souviens de cette forme très étrange sur ma droite. Quelque chose de vraiment bizarre. Vous vous demandez, mais à quoi joue cet animal ? Elle a dû avoir un peu peur de moi, car elle a soulevé un morceau d'une algue très gluante, presque impossible à tenir à la main. Elle s'est enroulée dedans, comme avec une cape, et elle m'a observé par un interstice. Certaines intuitions sont difficiles à expliquer, mais j'ai senti que cette créature était vraiment singulière. Elle pouvait m'apprendre quelque chose. Elle avait un truc particulier.
Claire Nouvian, bonjour.
Bonjour.
C'est un extrait de documentaire La Sagesse de la Pieuvre, Netflix 2020. Et ça se finit comme ça, ça vous a fait... ça a allumé quelque chose dans vos yeux. Cette pieuvre pouvait m'apprendre quelque chose. Alors est-ce que on remonte dans le passé, il y a 20 ans, quand vous avez rencontré ce poulpe à oreilles, qu'est-ce qu'il vous a appris ?
Je ne sais pas si c'est sous ce mot ou c'est ce verbe que je choisirais, en fait, pour... c'est pas ce qui me vient. Oui, comme vous disiez dans votre texte d'introduction, c'est d'abord de l'émotion.
Ouais.
Et je me rends compte, avec le recul, que l'interaction avec un petit poulpe à oreille, vraiment pas très grand, une quinzaine de centimètres, hein, et comme ouais. vous disiez, un rose magnifique, une délicatesse, cette membrane très fragile... toute cette vulnérabilité, cette beauté, cette grâce, c'était une forme de pressentiment intuitif, parce qu'on ramenait à l'échelle individuelle, justement, de l'impossibilité de la rencontre d'énormes machines industrielles qui sont vraiment l'équivalent de machines de guerre avec cette fragilité. En fait, je crois que c'est à ce niveau-là, ou plutôt au niveau émotionnel, que ça s'est passé. Ouais. Et qui se, évidemment, cette intuition-là, elle se corrobore et elle se vit maintenant par les chiffres, par la réalité de terrain qu'on documente en permanence. Mais c'est vraiment pour en prendre la mesure, nous, en tant qu'individus, on doit aussi redescendre à l'échelle de l'individu animal.
Bien sûr. Ouais.
Qui est broyé par les filets de pêche industriels qui sont lestés, qui sont destinés à écrabouiller tout ce vivant. Les animaux, qu'ils soient des coraux, des animaux qui bougent comme les pieuvres, ou des poissons, etc. Et voilà, donc je pense que c'est surtout ça qui s'est passé. Et ça a été finalement, sans doute, préfigurateur du combat que j'allais mener à grande échelle contre cette destruction de masse.
Vous vous souvenez quand même de l'avoir presque décidé à ce moment, je veux dire au moment de la contemplation, ou alors c'est venu après ? Parce qu'avant, je précise, pour celles et ceux qui nous écoutent, avant vous étiez documentariste, et vous n'étiez pas encore activiste, vous n'aviez pas encore fondé Bloom, l'ONG dont je précise aujourd'hui que c'est celle qui fait le plus peur au gouvernement français, d'après, j'ai lu ça à pas mal d'endroits. Vous avez obtenu beaucoup quand même de succès concrets, on va en parler après, mais je cherche à plonger dans la généalogie de ce changement de vie au fond.
Oui, c'est compliqué. C'est vrai que c'est aussi fin que la membrane du poulpe à oreille.
Ouais.
Parce que je pense que c'est toujours ça, d'ailleurs, le miracle de notre psychologie. C'est que en faisant bouger des toutes petites choses, parfois, c'est vraiment comme un grain de sable qui va faire bouger, finalement, qui va empêcher tout l'édifice d'aller dans une direction ou une autre. Et je pense qu'en effet, ces interactions réelles avec ce vivant si fragile des grandes profondeurs a percuté le savoir que j'avais, sommeillait, du fait que, en effet, ces pêches industrielles qui se déployaient depuis les années 80 jusque dans les grandes profondeurs, puisque c'est vrai que jusque dans les années 80, les pêches industrielles ont ravagé l'océan global, mais pouvaient se maintenir à une profondeur moyenne de 50 mètres, 100 mètres, etc. Et avec le temps, on a épuisé toutes les populations de poissons en surface et on a enfoncé finalement les filets de pêche de plus en plus profondément. Jusqu'à arriver à cette profondeur sidérante de 2000 mètres quand même. Hein. On va encore aujourd'hui pêcher dans l'océan global, plus en Europe parce que nous on a mis fin à ça, mais on va pêcher jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et donc voilà, ce savoir existait, cette connaissance existait, mais elle a été en effet, ça a généré en fait en moi une tristesse inconsolable. D'être dans ce sous-marin aux États-Unis, dans un canyon profond,
oui.
De voir ces animaux incroyablement tranquilles.
Beau. Et surprenant d'ailleurs, d'une beauté étrange.
Fragile, surprenant, ouais. Des formes de vie. On voit bien que ce sont des formes de vie cousines de ce qu'on connaît en surface, mais qui ont pris des atours en fait, différents en s'enfonçant dans le noir éternel des grandes profondeurs. Et en voyant tout ça, oui, ça a vraiment. Ça a percuté une urgence, ça a généré une espèce de... Ça a crevé une poche de tristesse de tout ce qu'on faisait subir au monde naturel, sans aucune raison, sans aucune justification.
Oui, surtout que la plupart de ces animaux ne seront pas mangés.
Alors non, il faut même savoir que les filets de pêche des pêcheurs industriels, des chalutiers, qui vont chaluter, gratter, racler les fonds, les détruire comme ça en grande profondeur, sur 100 espèces qui sont pêchées, il y en a 97 qui passent à la poubelle. Donc c'est une immense opération de destruction.
Et surtout de destruction de cet océan qui a en lui les ressources pour nous sauver du réchauffement. Faisons un peu de pédagogie pour remettre les points sur les i. En quoi, finalement, l'océan pourrait être, si on savait le protéger? Votre association Bloom, votre ONG, c'est protéger l'océan et ceux qui y vivent. J'aime bien ce libellé. Ceux qui y vivent, c'est quelques humains, d'ailleurs, mais aussi des animaux, des coraux. Et rappelons peut-être pourquoi la solution au péril écologique et climatique global de la Terre, peut-être, est dans l'océan.
Alors, la réalité, c'est que c'est surtout l'océan qui permet la vie sur Terre. Et on a tendance à l'oublier, parce que nous sommes devenus des êtres terrestres, ce que nous n'étions pas avant, d'un point de vue de...
Nous venons de l'eau, bien sûr.
Nous venons tous de l'eau. Et donc, l'océan est le berceau de la vie sur Terre. Il faut imaginer que toute l'eau présente sur notre planète, il y en a 97,5% qui se trouve dans l'océan. Donc, cette masse d'eau, permet non seulement le vivant, mais permet la vie sur Terre. C'est-à-dire que c'est cette masse d'eau qui absorbe les excédents de chaleur qui sont produits non seulement par l'activité humaine et par toutes nos activités anthropiques qui génèrent trop de chaleur, mais qui aussi absorbent la radiation solaire, ce qui permet de répartir de façon assez uniforme la chaleur intense du soleil. Sans l'océan, la planète Terre ne serait pas vivable, déjà.
Ouais.
Donc il faut cette eau pour en fait absorber par inertie comme ça l'excédent de chaleur venant déjà du soleil. Et ensuite, les courants marins permettent une redistribution, en gros, à la fois de la chaleur et en même temps de l'humidité. Et c'est parce que l'océan, le cycle de circulation, en fait, vraiment cette grande circulation, c'est comme, il faut se représenter un grand tapis roulant autour de la planète en permanence, ouais, qui permet de prendre l'eau chaude qui arrive et qui est sous radiation solaire, qui est trop intense en équateur, qui va circuler vers les pôles, s'enfonce vers les pôles et donc va refroidir. Et c'est comme un climatiseur au niveau mondial. Donc l'océan est un grand climatiseur mondial. Ça permet à la planète d'avoir une température qui permet globalement d'être habitée, à part en effet aux pôles et dans certains déserts. Donc ça permet à la planète d'être habitée, ça permet à la planète d'être cultivée, puisque le cycle de l'eau dépend directement de l'eau et de l'océan et de l'évaporation. Et donc, on a bien vu, je pense, et j'espère que c'est bien clair dans l'esprit de chacun, que les inondations monstrueuses qui ont eu lieu en Europe centrale à l'automne, là, ainsi que celles qui ont saccagé, dévasté Valence, sont directement liées à un excédent, justement, de réchauffement des eaux de surface, en fait, de l'océan. Et donc, ça crée une évaporation trop intense. Et en même temps, on voit bien que il faut imaginer que les masses d'air sont chargées en humidité et que quand elles se... Donc, ce qu'on appelle le phénomène de goutte froide, et quand elles rencontrent des masses d'air froides, en fait, cette eau, beaucoup trop dense, en fait, elle est en accumulation beaucoup trop dense, beaucoup plus dense de par le fait du réchauffement climatique, va précipiter, et c'est ça qui génère une espèce de tsunami venu du ciel. D'accord. C'est lié au cycle de l'océan. Donc en fait, il faut se dire, pour résumer, que sans l'océan, on ne peut pas vivre sur Terre, on ne peut pas cultiver sur Terre, et le fait qu'on soit en train de réchauffer à une vitesse absolument sidérante la température globale de notre planète par rapport à l'ère pré-industrielle, ça génère une bascule dans un monde vraiment dystopique dans lequel la plupart de la planète va devenir invivable.
Alors, on va essayer.
Et j'ajoute quand même aussi, hein, parce que il y a beaucoup d'aspects, mais il y a les aspects température, il y a aussi l'aspect tout simplement que un océan plus chaud, ce sont des molécules d'eau qui sont en expansion, donc il y a une expansion thermique des molécules, ça veut dire qu'on augmente le niveau de la mer, couplé avec la fonte des glaciers, on se retrouve avec un océan qui va nous submerger au sens propre, et ça a commencé. J'ai entendu d'ailleurs à la radio, sur cette radio, qu'un camping en Normandie avait dû déménager ses installations parce qu'il est littéralement submergé. Donc on va vers un déplacement de environ, au minimum, 900 millions d'humains, voire 1 milliard d'humains, avant la fin du siècle. Personne n'a jamais eu à faire face à des mouvements humains de telle ampleur. Donc c'est obligatoire, au-devant, de conflits extrêmement durs entre humains, de par la raréfaction des ressources, mais de par aussi des mouvements amples de migration climatique.
Alors Claire Nouvian, donc vous avez fondé Bloom il y a une vingtaine d'années, vous la dirigez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos activités pour la défense de l'océan? Je pense qu'il y a des activités de combat, mais aussi des connaissances pour nous montrer peut-être des choses qu'on ne connaît pas. Peut-être que la première chose à faire, c'est de connaître l'océan avant d'essayer de le protéger, de le défendre et de se battre. Est-ce qu'on pourrait distinguer comme ça ces deux compartiments de Bloom?
Oui, en fait, on est une ONG scientifique, donc c'est vraiment le propre de Bloom. C'est que la moitié de mes collaborateurs sont des chercheurs, des ingénieurs ou des biologistes qui ont fait des études en fait assez techniques sur les processus physiques ou biologiques liés à l'océan.
D'accord.
Donc on est en effet capable de poser des questions qui ne sont pas posées par la science financée par l'État. Donc il y a des pans entiers qui concernent les choix qui sont faits par le politique, qui ne sont pas grattés, qui ne sont pas observés de très près. Par exemple,
prendre un exemple.
Oui, prenons vraiment, je pense que c'est l'exemple, d'ailleurs je vais vous prendre l'éléphant dans la pièce,
ouais.
C'est le subventionnement par argent public de la destruction de l'océan. Il se trouve que les pêches aujourd'hui qui existent à l'échelle mondiale, et notamment en France, parce qu'on a une très forte adoration d'une méthode de pêche qui s'appelle donc le chalutage de fond, qui racle les fonds, c'est une méthode de pêche qui, littéralement, hein, je n'exagère pas, si on ne la subventionnait pas avec vos impôts, mes impôts, demain matin, serait en faillite. Donc en fait, on a une méthode de pêche qui est l'équivalent de la déforestation sous-marine, des filets qui sont lestés pour atteindre le fond, pour racler les fonds et pour déloger en permanence du fond marin les animaux qui s'y trouvent en raclant et en rasant tous les autres animaux. Et oui, donc nous, on a montré que sans argent public, les méthodes de pêche qui aujourd'hui dévastent l'équivalent de la France chaque année en surface, ces méthodes de pêche n'existeraient pas.
Mais quand vous dites sans argent public, quand vous dites nos impôts, vous voulez dire au niveau européen par exemple, pas au niveau français ?
Alors les deux, parce qu'en fait on a différentes aides, mais
c'est intéressant qu'on comprenne.
Alors moi je suis ravie qu'on fasse parler des subventions. Il y a des aides européennes. Et il y a des aides françaises, il y a des contreparties aux aides européennes qui sont données par la France, il y a des aides, des fonds structurels européens, et il y a aussi des aides d'État, où là, l'État peut décider unilatéralement ce qu'il va donner comme argent public, et ensuite, il y a des aides régionales. À chaque niveau des échelons, les aides sont quand même à un niveau d'opacité qui est absolument pas du tout acceptable. Mais alors, quand on arrive au niveau régional, alors là, on plonge dans la très très grande opacité, parce qu'on voit bien que les lobbies qui sont implantés, notamment dans la région Bretagne, vont tirer la manche des décideurs au niveau local et vont obtenir du Conseil régional de Bretagne des votes ahurissants qui prennent de l'argent public pour permettre, contre les décisions européennes, de soutenir ce secteur absolument ravageur, climaticide. Donc ces bateaux qui émettent du CO2, qui resuspendent le carbone qui est stocké naturellement et gratuitement dans les fonds marins, qui ravagent les animaux.
Qui sont des monstres, il faut préciser leur taille et leur poids peut-être. Le chalutier immense, le plus connu, j'ai oublié son nom, il pèse combien, il fait quelle longueur?
Alors ça oui, il y a donc des chaluts, donc les chalutiers sont des bateaux qui tirent des filets. Alors, ils peuvent tirer le filet dans la colonne d'eau, ou ils peuvent tirer le filet sur le fond. Voilà. Donc, en fonction de l'un ou l'autre, on appelle ça chalutage pélagique ou chalutage de fond. Mais le chalutage, c'est le principe de tirer un filet avec une puissance motrice qui déjà demande une grosse consommation de carburant. Et donc, l'aide des citoyens, puisqu'on paye quasiment la moitié de la note de gasoil. On commence par ça. Et ensuite, ces bateaux peuvent faire... Donc là, on s'est battu contre... Et on continue à se battre contre un chalutier pélagique, donc qui attrape du poisson bleu, ce qu'on appelle le merlan bleu, pour faire du surimi. Il fait 146 mètres. C'est la moitié de la tour Eiffel. Faut bien se représenter
ça. C'est vraiment des monstres.
Des monstres. Les chalutiers, soit pélagiques, soit les chalutiers de fond qu'on a filmés, dans les aires marines dites protégées, qui ne sont absolument pas protégées, en Manche par exemple, on a révélé ça dans une vidéo, ces chalutiers-là font par exemple 88 mètres, 112 mètres, Prince Bernard, Scombrus, Zeeland, ça sont leurs noms, et c'est quand même plus grand qu'un Boeing 747.
C'est impressionnant, et c'est terrifiant de vous entendre. On va bien sûr reparler des lobbies, et même poser des questions naïves, comment il fonctionne, comment ça marche un lobby et comment on combat. On va parler des victoires que vous avez remportées, très concrètes, mais je précise que c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous recevoir, c'est que dans ce parcours, on le souligne peut-être pas assez, au début il y a un émerveillement devant la délicatesse d'un petit poulpe de quelques centimètres, et puis maintenant il y a un combat violent contre des monstres, contre l'industrie lourde, contre des lobbies, et entre les deux, il y a eu une décision, et je trouve ça intéressant de souligner que parfois, on est capable de prendre des décisions, pas parce qu'on réfléchit, comme on le disait au début, mais parce qu'on ouvre son cœur, on ouvre sa sensibilité, on ouvre ses yeux, et en hommage au poulpe, évidemment, on ouvre ses oreilles.
Your mouth floats above my bed at night. My own, a private moon. Just because the mind can make up whatever it wants, doesn't mean that it'll never come true. Won't ever happen.
Just from behind
to the back of his head.
Then I lift up his hair and nip forever so lightly.
That's where the hair starts, just because she can.
Now please can I kiss him?
Yo quiero besarle.
Just because she can. Come on, please, can I kiss him?
Just because she can.
I just don't know who.
C'était Björk et Rosalia Oral.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Claire Nouvian, fondatrice et directrice de l'ONG Bloom. On vient d'écouter, et c'était très émouvant, ce morceau inédit de Björk et Rosalia, dont les bénéfices intégraux ont été reversés à l'association environnementale Aegis, qui lutte contre les conditions indignes de la pisciculture en Islande, notamment l'élevage intensif du saumon. Et d'ailleurs, j'avais vu, Claire Nouvian, votre intervention avec Camille Etienne sur l'Insta de Björk.
Oui, on a, avec l'ONG SOA aussi, on a réussi à monter un projet avec Björk, qui a compris. Enfin, de toute façon, on voit bien, cette femme est un génie. Et elle est ultra sensible, elle a tout compris au désastre qui est en train de se dérouler sur la planète à cause de nous, uniquement de nous. Et du coup, elle veut vraiment soutenir les ONG. Ouais. Et elle a compris qu'en fait, la France allait recevoir la conférence des Nations Unies sur l'océan en juin 2025. Et alors que la France fait semblant de protéger, clame partout sur toute la scène internationale que la France protège 30% de son territoire marin, alors que c'est faux, c'est un mensonge pur et dur. On protège moins de 0,1% de nos eaux, et dans le reste des zones qu'on appelle protégées, on laisse passer en permanence des chalutiers qui ravagent tout. Et
juste
donc,
pour qu'on comprenne.
Björk a été aussi vraiment scandalisée par ça. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo vraiment chouette sur le compte de Björk.
Oui, mais comment ces zones peuvent être dites protégées sans que ça n'engage à rien? Concrètement.
Mais c'est fou, hein?
Donc c'est juste un libellé qui
veut
rien dire.
Ça s'appelle un mensonge.
Voilà.
Un mensonge. C'est rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire qu'on a créé des catégories hyper compliquées, mais incompréhensibles, pour en fait empêcher la protection. Donc ce qu'on protège très très efficacement en France, c'est les chalutiers, c'est la pêche industrielle. Ça, on le fait vraiment bien.
Alors,
on le fait avec
détermination. Alors venons-en au lobbying, justement. Nous, on a des images dans la tête un peu clichés quand on ne connaît pas. Comment ça marche, un lobby, finalement? Si on essaie de résumer en deux, trois axes, comment fonctionne un lobbyiste, concrètement? Il fait quoi de sa journée?
Eh bien, en fait, j'aimerais bien voir quels sont vos clichés, parce que je pense que vous êtes très près de la réalité. Vous l'imaginez comment, le lobbyiste?
Je l'imagine qu'une valise de billets.
Eh bien, c'est pas loin de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de valises de billets qui circulent, qu'on ne voit pas, mais il y a des indications qui nous donnent ça, puisque quand on prend le Qatar Gate, est-ce que vous vous souvenez de ce scandale qui a éclaboussé le Parlement européen avec des députés qui avaient été payés par le Qatar pour redorer le blason du Qatar? Vous vous souvenez de cette affaire?
Tout à fait.
Eh bien, il se trouve que le Qatar Gate, qui a finalement mis une focale sur le Qatar, en réalité, à l'origine, était une investigation de la police belge dans une affaire de corruption sur des accords de pêche entre le Maroc et l'Europe. Donc vous voyez, en fait, il faut s'imaginer et se représenter que la pêche industrielle, ce sont des gros navires qui œuvrent dans un espace sans aucune surveillance, qui ont des moyens de transport au niveau mondial sans contrôle. Enfin, c'est une invitation au trafic. Donc en fait, on a des bateaux qui ont moins de un contrôle en Europe par an par navire, et qui sont, quand ils sont contrôlés, les gros navires industriels, très souvent, on trouve des cargaisons de drogue. C'est tout à fait lié, puisque moins il y a de poissons, plus il est tentant de trafiquer autre chose. Donc déjà, la pêche industrielle est clairement en grande partie mafieuse. Il faut bien se représenter cette affaire-là. Et puis par ailleurs, le lobbyiste, son rôle, c'est de mentir en fait aujourd'hui, parce que les pêches industrielles sont historiquement la première cause de destruction de l'océan. Ce sont les chercheurs spécialistes de la biodiversité qui sont réunis dans un panel intergouvernemental qui s'appelle l'IPBES. Mmh. C'est l'équivalent du GIEC pour le climat, mais pour la biodiversité. Et les spécialistes de la biodiversité ont bien dit la première cause de destruction de l'océan, c'est la pêche. Et c'est la pêche industrielle. Donc la réalité de ces pêches-là, c'est qu'elles sont inacceptables, puisqu'on a financé des outils de production, ces énormes navires ultra efficaces à attraper du poisson en surnombre, et ils ont dévasté au début les zones qui étaient proches des côtes, et puis ensuite de plus en plus loin, et puis quand il y avait moins de poissons, ils sont allés de plus en plus profondément, et puis ensuite ils ont commencé à changer d'espèce. Puisque quand on a attrapé tous les turbots, tous les cabillauds, tous les poissons qui sont sur le fond, et qui, les lottes, etc., qui ont une forte valeur commerciale, eh bien on se met à attraper autre chose, on se met à attraper ce qu'on appelle des poissons bleus, c'est-à-dire des poissons plus petits, ouais. Comme bah, le maquereau, le hareng, la sardine, le merlan bleu, le chinchard, etc. Et on va attraper ces poissons-là, en grande partie on les transforme en farine pour nourrir des poissons d'élevage.
Comme le saumon.
Comme le saumon. Et tout ça, c'est une boucle qui part du nord, de grandes pêches industrielles subventionnées par nos impôts, qui vont, et par l'argent public, donc, qui vont attraper du poisson dans les eaux du sud, qui ont évidemment des populations qui sont bien plus nécessiteuses, d'abord de protéines animales, pour le coup, de stabilité, de sécurité alimentaire, mais aussi de résilience économique. On a besoin, par exemple, on prend les pêcheries au Sénégal, ce sont des pêcheurs aujourd'hui artisans, qui ont leur gagne-pain qui est détruit par des grands bateaux-usines européens, mais aussi chinois, coréens, mais aussi européens, parce qu'on a bon dos hein, de toujours mettre la faute sur les Chinois, alors prenons nos responsabilités, et ces pêcheurs artisans se retrouvent obligés de quitter leur communauté, se retrouvent sur des routes de migration où on les traite comme des malpropres, et ils se retrouvent à devoir venir travailler dans nos côtes bretonnes ou sur notre littoral pour embarquer sur des bateaux-usines qui ont ravagé leurs propres eaux et leur communauté de pêcheurs.
Voilà. Vous voyez, c'est une boucle infernale. Et puis, in fine, la santé du monde est la nôtre en tant qu'humain, évidemment. On y vient. Puisque vous avez sorti récemment avec Bloom l'affaire du thon contaminé au mercure. Donc le résultat de toute cette chaîne, c'est qu'en plus, on est malade. On tombe malade.
Oui, et en plus, sur les pêches thonnières, c'est encore plus triste que ça. Parce que les pêches qui vont donc cibler le thon, qu'on appelle les pêches thonnières, c'est aussi des pêches sur lesquelles on a repéré un niveau de violence humaine sur l'ensemble de la chaîne, de la capture jusqu'à la mise en conserve en fait, des thons. Qui est absolument sidérant. On a fait un rapport qui est un peu dur à lire, hein, je vous préviens, mais qui s'appelle « Violence en boîte ». On l'a fait avec l'université de Harvard, qui a une clinique juridique spécialisée dans les droits humains. C'est un peu dur à lire. J'ai terminé en larmes, pour être honnête, en lisant notre propre rapport. Mais c'est dur, mais il faut le lire pour comprendre qu'il y a aussi de la violence humaine. Par exemple, des observateurs scientifiques qui sont payés par des États, comme au Gabon, etc., qui sont payés pour embarquer à bord de ces navires et essayer d'observer si les pêches respectent les règles dans les eaux africaines et qui se retrouvent assassinés, décapités. Et jeté par-dessus bord. Donc c'est une violence inouïe, hein. C'est vraiment une mafia. Donc voilà, et en fait, après, les pêches thonnières, donc une partie de ces pêches-là sont des pêches européennes, une grande partie, qui pêchent en Afrique, et tout ce thon se retrouve donc en boîte et arrive dans nos supermarchés. C'est un poisson noble, on devrait penser à un panda des mers, en fait. Le thon, devrait-il se dire, c'est un panda. C'est un énorme animal incroyablement noble qu'on met en boîte, qu'on retrouve à des boîtes à 1, 2, 3 euros, à rien du tout. Et quand on teste, en fait, le contenu des boîtes et qu'on regarde la teneur en mercure du poisson, puisque le thon est un prédateur hein, très élevé dans la chaîne alimentaire, donc il accumule, comme ça, il bio-accumule les métaux lourds, eh bien, quand on regarde la concentration en mercure dans les boîtes, on se rend compte que toutes les boîtes, 100% des 148 boîtes qu'on a analysées au niveau européen, sont contaminées avec du mercure. Et le mercure est un neurotoxique ultra puissant qui, en fait, commence par déjà détruire en fait le système en fait en partie immunitaire, va s'accumuler dans le cerveau, va générer des problèmes gravissimes pour la santé humaine. Et en plus, il est très difficile de s'en débarrasser. Les effets qu'on a avec le mercure sont des effets à long terme. Donc évidemment, la seule façon de se soigner, c'est d'arrêter immédiatement de manger des poissons prédateurs, comme le marlin, l'espadon, le thon. Et les recommandations scientifiques, c'est aucun poisson prédateur aux enfants, donc aucun thon
aucun
aux enfants.
Mais aucun poisson prédateur fruit de la pêche industrielle.
Oui, alors il se trouve qu'il y a du mercure dans tous les thons, mais notamment dans les boîtes. Mais il se trouve que si on devait manger du thon, parce que si on en mange une fois par an, et que c'est vraiment très très occasionnel et qu'on n'est pas enceinte et qu'on n'est pas un enfant, bon, pourquoi pas, si vous tenez vraiment à en manger, dans ce cas il faut absolument faire le choix au minimum d'une pêche locale artisanale avec une pêche qui a été faite à la canne ou à la ligne plutôt que par ces énormes bateaux industriels qui raflent tout, y compris des dauphins, des tortues, des raimentas, des requins qui sont massacrés et jetés par-dessus bord.
Alors Claire Nouvian, c'est dur ce que vous nous dites, enfin, on le savait, mais là on entend votre émotion et je précise que c'est vous qui avez sorti tout ça avec votre ONG et après ça s'est beaucoup propagé. On a commencé l'émission sur l'émerveillement devant la beauté d'un petit poulpe et là on voit cette violence faite aux hommes déjà, faite aux poissons aussi, faite à la vie elle-même. Et parfois, est-ce que vous êtes découragé?
Oui.
Et ça se manifeste comment?
Ça se manifeste en fait, c'est très lié, je vais vous dire, aux heures de sommeil. C'est tout. Si je dors pas assez, je perds mon énergie et le désespoir m'envahit. Et c'est pour ça que je me force à dormir au moins 5 heures par nuit parce que sinon je passe dans le rouge. Voilà. Donc et après je perds. En fait, quand je perds l'énergie, je perds parce que moi j'ai pas d'espoir, j'ai aucun espoir. Mais je remplace le mot espoir par un autre E qui est celui de l'énergie. En fait, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'espoir dans la vie. On a besoin d'avoir de l'énergie. Et l'énergie, elle vient d'un projet et d'un collectif. Quand on a un projet très clair et qu'on est dans un collectif magique, d'humains avec lesquels on partage des préférences éthiques très claires, en fait, vraiment, l'énergie est décuplée. Enfin, l'énergie, c'est vraiment... c'est comme des molécules qui sont en expansion. Donc, voilà, je pense qu'il faut dormir pour avoir de l'énergie. Et pour cultiver en fait un projet collectif qui et en plus
même,
parfois on gagne.
Voilà, c'est ça. On va en parler bien sûr bientôt. Il y a des succès objectifs qui sont des belles victoires et à mon avis qui peut-être aussi vous permettent de tenir dans les moments de découragement. Mais d'ici là, écoutons Junior.
Thank you.
C'était Junior Monumental.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Claire Nouvian, c'est à la fois beau et éprouvant ce qu'on apprend, enfin on le savait déjà, mais avec vous on a des faits, c'est vous qui sortez les plus gros dossiers. Je rappelle que votre association Bloom, votre ONG, que vous avez fondée, que vous présidez, est celle qui fait peur au gouvernement français, et puis pas qu'aux Français. On parlait de votre découragement qui arrive parfois quand on voit la violence faite aux hommes, faite aux poissons, faite à la terre, faite à la vie même, et on comprend votre combat. On se souvient de ce combat qui s'origine dans l'éblouissement, dans l'émerveillement, et c'est une leçon de vie, on a tous envie de ça, de savoir ouvrir son cœur pour décider de mettre ses actes en conformité avec ses choix de vie, avec sa vision, avec son sens du beau. Et je voudrais maintenant qu'on en vienne très concrètement à ce qui peut vous aider aussi à ne pas être trop découragé, c'est que vous remportez quand même des belles victoires. Est-ce qu'on pourrait en prendre une ou deux ou trois pour comprendre que ça fait du bien aussi d'avancer, en fait ?
Alors, on a gagné l'interdiction de la pêche en eau profonde au niveau européen en 2016. On a vraiment empêché le massacre des grandes profondeurs entre 800 et 2000 mètres de profondeur. C'est pas assez, mais c'est mieux que rien.
C'est beaucoup quand même.
Oui, et puis il a fallu, vraiment, ça a été 7 ans, mais c'était épique, je peux même pas vous raconter. C'était de la folie furieuse qu'on a vécu.
Vous voulez dire quand même que vous avez eu des murs, des portes fermées,
Non, mais bien pire que ça.
Des menaces. Menaces
de mort, ouais. Intimidation, insultes, malhonnêteté, crasse, corruption, vraiment le pire de l'humanité, quoi. On a côtoyé le pire de l'humanité pendant des années. Ensuite, on a fait interdire la pêche électrique, ouais. Cette idée saugrenue d'électrocuter le vivant dans l'océan. En 2019, on a remporté la loi sur la restauration de la nature, en 2023, enfin, on a vraiment évidemment
des belles victoires. C'est quoi cette loi, concrètement ?
C'est une loi qui oblige les États à restaurer les écosystèmes naturels. Et donc, à les protéger, aussi. Ouais. Mais vous savez que là...
C'est au plan européen.
Oui, alors, mais vous savez que la Commission européenne est en train d'essayer d'avancer une réglementation qu'elle appelle Omnibus, où en fait, elle va détricoter les obligations qui sont faites aux États pour essayer de renforcer la protection de la nature et du climat. Donc on est dans un moment, vraiment, c'est quand même difficile de ne pas désespérer. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est important pour chacun. On a le droit d'être désespéré, on a le droit d'être triste, on a le droit de passer même par des cycles d'un état dépressif. C'est pas parce qu'on a des grands moments de déprime qu'on est dépressif dans la vie. On a le droit d'être atteint par la tristesse absolue, la violence absolue, et la perspective qui est la nôtre, et ce qu'on a comme avenir en partage, parce que c'est impossible que ça se termine bien. C'est impossible. En fait, on n'est pas des machines, on n'est pas des ordinateurs, donc on n'est pas capable de, nous, dans notre petite cervelle, synthétiser le système Terre qui est en train de s'écraser. Mais c'est pour ça que Rockström a inventé les limites planétaires. Il a mis sous forme de 9 limites la représentation du dépassement des limites planétaires. Et on est en train de dépasser la 7e des 9 limites. Donc on est, en fait, dans le rouge. On est dans le rouge, et ça veut dire que partout, les briques de la maison commune sont en train de tomber. Et le constat est qu'au lieu d'aller dans le bon sens, on va dans le mauvais sens. On élit des Trump, on renforce le poids des Orban, des Poutine, partout dans le monde. Donc on est sur des gouvernements proto-fascistes qui n'ont cure, en fait, des limites scientifiques, des alertes rouges des scientifiques. C'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est de renforcer la destruction du monde pour du profit à court terme. C'est des dangers publics, pourtant, des criminels, des grands criminels. Il faut bien comprendre, on a des grands criminels. Parce que le changement climatique a déjà tué 4 millions de personnes au niveau mondial. Et ça va générer les migrations au minimum de 250 millions de personnes sans les 900 millions de personnes qui vont être déplacées des littoraux au niveau mondial. Donc on est sur des phénomènes dont l'ampleur dépasse notre capacité d'entendement. Donc là, face à ça, on a le droit d'être désespéré. Mais ce que je dis, c'est que de toute façon, on trouve une magie dans un projet collectif
dans
à se battre
déjà.
Et on trouve une éthique personnelle et on trouve un ancrage. Et je pense que moi, je ne sais pas comment je tiendrais si j'avais pas l'action. J'aurais envie de mourir, en fait, quand je vois l'état du monde, quand je vois ce qu'on fait déjà subir aux migrants, quand je vois les guerres qui se multiplient, quand je vois qu'on laisse les enfants à Gaza être amputés, que c'est le plus fort taux d'amputation d'enfants au monde, sous nos yeux, et que, en fait, on soutient cette barbarie et qu'on l'accélère, en fait, avec des moyens de surveillance, des moyens technologiques qu'on n'a jamais eu, que les plus grands dictateurs n'ont jamais eu à leur disposition. Donc, face à ça, en fait, on peut se dire que tout va s'effondrer de toute façon et que si on a créé les collectifs, les réseaux de soutien, qu'on a réinventé la façon d'être ensemble, qu'on a mis à bas le patriarcat qui est vraiment destructeur et criminel et qu'on a inventé une façon de mutualiser notre énergie, notre vision du monde, d'être en collectif, en fait, on sera prêt pour après. Et c'est tout ce qu'on peut faire et c'est ce qu'on doit faire. On trouve une éthique dans le combat et on trouve de la joie dans le combat. De la joie, vraiment, je le dis, c'est au-delà de juste ne pas désespérer. C'est qu'en fait, c'est joyeux. En plus, on se marre.
Une joie de combattant.
Mais vraiment, vraiment. En fait, ça nous tient et ça nous donne de la joie de se battre ensemble contre les criminels d'irresponsables politiques qui ne tiennent lieu de dirigeants.
Alors si des gens qui écoutent veulent rejoindre Bloom, comment ils font ?
Ah ben, ils vont sur notre site internet. Mmh. De toute façon, nous, on fait zéro papier. On est à l'inverse de toutes les grosses machines. C'est zéro papier. On est hyper efficace. Et puis, on ne va jamais sur le terrain des autres ONG. Si elles sont efficaces, on n'a pas besoin d'aller doubler les combats de Surfrider qui fait ça très bien sur le plastique et tout.
Ouais.
On est vraiment... On va que
chacun
là.
Chacun ses combats, quoi.
Chacun ses combats et on ne prend aucun argent des
si
industriels.
Shepherd, mmh.
Alors, contrairement... Parce qu'en plus, sinon, on est trop efficace. Et comme vous disiez, vraiment, on est la bête noire des dirigeants. Et du coup, ils ont inventé le lobby de la pêche industrielle qui est relié même par des dirigeants politiques. Ils disent qu'on est financé... ça va mourir de rire, mais ils disent qu'on est financé par l'argent du pétrole. En fait, parce qu'on a une mission secrète qui est de mettre des plateformes de pétrole dans l'océan et tout, alors qu'on a attaqué au pénal Total Energy et ses actionnaires. Donc, et vous savez, ils inventent... Bon, vous allez me dire, c'est vieux comme Athènes. C'est vieux comme Athènes. C'est même peut-être plus ancien même qu'Athènes, de faire de la diffamation et d'attaquer le messager pour justement tuer son message. Mais en fait, on connaît ça par cœur. La réalité, c'est qu'on arrive à être tellement efficace là où on est, avec les collectifs concrets, avec l'appui des citoyens. En fait, on est tellement soutenus par les citoyens qu'on gagne nos combats et que ça coûte aux politiques, ça coûte aux dirigeants, ça coûte aux entreprises comme Total Energy. Ça leur coûte d'avoir autant de personnes alertées par nos recherches et nos investigations. Donc, c'est vraiment... les gens n'imaginent même pas, en fait, à chaque fois, quand ils sont devant leur téléphone et qu'ils interagissent avec un contenu, à quel point... C'est une petite goutte qui crée une petite rivière qui finit par faire un fleuve et qui finit par faire un tsunami dans un espace politique.
Claire Neuvian, quand on vous écoute, on la sent, cette joie du combattant, de la combattante en l'occurrence. Vous avez tenté la politique à un moment avec Place Publique, et puis vous avez renoncé. On a quand même envie un peu de vous en politique, quelque part. On se dit, une ONG, c'est très bien, c'est même efficace, vous l'avez dit, mais pourquoi finalement rester dans cette limite de ce qui n'est au fond pas politique ?
Eh bien, parce que la politique, c'est pas joyeux.
Ça peut l'être, peut-être.
Je crois pas. Je crois que les joies, en général, que tirent les politiques sont des joies assez égocentriques. Je crois qu'il y a beaucoup de réparation des égos malmenés. Et les modalités aujourd'hui de la vie politique, d'une vie, d'une action politique, à part au niveau local, où je pense vraiment il y a des gens qui font des choses incroyables, et quelques énergumènes incroyables, hein, parce qu'on a François Ruffin qui est un peu hors norme comme ça. Mais il y a la plupart des gens qui veulent la lumière en politique sont des gens que je n'ai vraiment pas envie de côtoyer. Il y a des politiques qui sont heureusement dans le système pour faire avancer les combats, mais c'est pas ceux qui cherchent la lumière. Et donc eux, en fait, je trouve que le système de recrutement des politiques finit par mettre les pires au pouvoir, alors qu'il faudrait vraiment... mais c'est vous qui me direz ça, c'est pas parce que Platon a sans doute dit un truc là-dessus.
C'est et sûr,
donc,
Platon.
Le soleil de Platon va nous illuminer, là.
Platon, il proposait un philosophe roi, donc c'est pas non plus très démocratique.
Et peut-être celui qui ne veut pas être politique, et je pense que les modalités de scrutin aujourd'hui sont des modalités de recrutement des pires, alors qu'en fait, il faudrait presque aller chercher, en effet, ceux qui ne veulent pas faire de la politique. Et ça s'appelle les conventions citoyennes. un tirage au sort. Et on l'a vu, en fait. C'est ça qui est efficace. C'est tellement efficace, ça mérite une seconde de développement. Parce que les conventions citoyennes pour le climat, par exemple, avec des citoyens tirés au sort, qui sont, en fait, éduqués aux problématiques sur lesquelles ils sont supposés se pencher, eh bien, quand on demande aux citoyens, ils prennent des bonnes décisions. Et ils prennent des décisions d'intérêt général. C'est-à-dire des décisions qui peuvent même leur enlever du confort personnel. Mais ils comprennent, ils prennent des décisions pour que ce soit bon pour l'ensemble des citoyens.
Dans ce cas-là, il y aurait bien de la joie politique, on est rassuré. Claire Nouvian, c'était passionnant de vous écouter. Je voudrais qu'on se quitte avec en retrouvant la poésie du début de l'émission. Je vous ai préparé un petit cadeau, un texte de Gaston Bachelard, philosophe, épistémologue français, tiré de l'eau et les sons. Alors, j'ai un peu coupé pour faire un petit moment comme ça. Donc voilà, Gaston Bachelard, je retrouve toujours la même mélancolie devant les eaux dormantes. Une mélancolie très spéciale qui a la couleur d'une mare dans une forêt humide. Une mélancolie sans oppression, songeuse, lente, calme. Et puis un peu plus loin, Gaston Bachelard toujours, je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières, dans un coin de la Champagne vallonnée, ainsi nommé à cause du grand nombre de ses vallons. Et puis un peu plus loin, mais le pays natal est moins inétendu qu'une matière. C'est un granit ou une terre, un vent ou une sécheresse, une eau ou une lumière. C'est en lui que nous matérialisons nos rêveries. C'est par lui que notre rêve prend sa substance. C'est à lui que nous demandons notre couleur fondamentale. En rêvant près de la rivière, alors ça pourrait être l'océan, j'ai voué mon imagination à l'eau verte et claire, à l'eau qui verdit les prés. Je ne puis m'asseoir près d'un ruisseau sans tomber dans une rêverie profonde, sans revoir mon bonheur. Il n'est pas nécessaire, écoutez bien cette fin, que ce soit le ruisseau de chez nous, l'eau de chez nous, l'eau anonyme, c'est tous mes secrets, le même souvenir sort de toutes les fontaines. Merci beaucoup Claire Nouvian de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, et pour vous remercier d'avoir fait ce détour malgré votre agenda d'activiste. Eh bien, je voudrais résumer la philosophie de la vie qu'on a entendue. Alors voilà, j'ai beaucoup aimé la notion d'énergie et la notion de ne pas avoir besoin d'espoir. Quand on a besoin d'espoir, c'est qu'on attend que le monde aille mieux pour aller bien. Bah là, on peut attendre longtemps. Vous avez compris qu'on peut avoir une joie de combattant un peu désespéré, au sens où on se réjouit de l'énergie présente et on n'a pas besoin de se nourrir comme ça de l'espoir. L'action, quelque part, l'action, comme vous le faites avec Bloom, remplace l'espoir et évidemment nous donne de l'espoir. Et puis bien sûr, le mot de la fin, je reviens sur ce chemin de l'émerveillement devant la délicatesse au combat contre la violence, l'histoire d'une décision, l'histoire aussi d'une vocation. Merci beaucoup Claire Nouvian.
Merci.
Cette émission a été préparée excellemment, merci beaucoup, par Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale, Valentine Chaudebois. Émission réalisée par Antoine Larcher, avec à la technique Loïs Moreau.